Merci à tous ceux qui se joignent à nous un peu partout au Québec, Outaouais, Estrie, merci d'être là. Et bien sûr, tous ceux qui nous écoutent via Internet. Imaginez le nombre de tonnes de déchets canadiens de plastique rejetés dans l'environnement. On a des chiffres de 2016. Tenez-vous bien, on parle de 30 000 tonnes de déchets plastiques. C'est ce que nous dit Environnement Canada. Il y a le ministre de l'Environnement qui a annoncé une interdiction de nombreux plastiques à usage unique appliquée l'année prochaine, dès 2021. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce que nous, on peut faire comme citoyens? Je pense qu'on est de plus en plus conscientisés par rapport à notre consommation et notre surconsommation de toutes sortes de produits et surtout le plastique, parce qu'on en parle beaucoup au Québec. Il y avait tout le débat sur la consigne la semaine dernière. Vous avez vu, on va avoir une consigne sur certains contenants, métal, plastique, verre, à partir de dans 2 ans et demi. Mais quand même, ça bouge, il se passe des affaires. On aimerait que ça aille plus vite. On essaye. Il y a des initiatives intéressantes. Je vais vous poser la question au cours de la prochaine demi-heure. Est-ce que vous avez l'intention de diminuer votre utilisation de plastique, que ça soit en matière de sac? Allez-vous adopter définitivement le sac recyclable? Faites attention, comme je vous disais l'autre jour, il y en a beaucoup qui nous passent des sacs chinois. C'est pas... c'est comme échanger 4,30 sous pour une pièce, les amis, sérieusement. Donc, il faut vraiment faire attention. Et essayer de moins... Ce qui nous dérange le plus, c'est la surconsommation. Alors, l'idée, c'est peut-être d'acheter moins, de réutiliser. On va en parler tout de suite avec Amélie Côté, qui est spécialiste en gestion des matières résiduelles, experte en enjeux sur la consigne pour la coopérative Incita. Merci d'être là.
Avec plaisir.
Également, je vous parlais tout à l'heure d'une nouvelle initiative québécoise, une alternative écologique au plastique. Et c'est Laurence Boudreau qui est avec nous pour nous en parler. Elle est directrice générale de Bosque Bioproduits. Merci d'être là.
Merci, ça me fait plaisir.
J'ai reçu un courriel comme ça de quelqu'un qui disait tout à l'heure, qui disait la semaine dernière, écoutez, vous devriez connaître cette entreprise québécoise qui fait du plastique non plastifié. Expliquez-nous ce que c'est, Laurence.
Oui, alors Bosque Bioproduits, nous, ce qu'on fait, c'est une matière alternative qui peut vraiment substituer les plastiques conventionnels. Donc, nous, on vend notre matière à des manufacturiers qui produisent, par exemple, de la vaisselle pour enfants en plastique. Ils vont retirer ces granules de plastique conventionnel-là de leur équipement et vont utiliser notre matière à la place. Donc, ils vont produire le produit de la même façon. Ils vont obtenir un produit à la fin qui a les mêmes propriétés avantageuses du plastique, c'est-à-dire le côté léger, non cassant, plus sécuritaire, par exemple, dans les cas de la vaisselle pour enfants. Et le gros avantage, c'est que cette matière-là est 100% biosourcée. Donc, il n'y a aucun ingrédient toxique à l'intérieur de cette matière-là.
Qu'est-ce que c'est que cette résine?
Sans donner
votre recette.
À l'origine, on part des résidus industriels. On les transforme, on les valorise. On ajoute des ingrédients non toxiques pour aller chercher les propriétés qu'on va rechercher. Par exemple, si on produit un plastique qui va être rigide pour la vaisselle ou si on produit un plastique qui est flexible pour de l'emballage comme des films, par exemple, on ajuste cette formulation-là avec nos ingrédients.
Mais est-ce que vous recyclez, par exemple, des vieux plastiques ou certaines choses?
On n'est pas dans le recyclage de plastique.
Vous n'êtes pas du tout dans le recyclage?
Non, parce que le plastique contient beaucoup d'ingrédients qui sont toxiques. C'est issu de la pétrochimie. Puis
pourrait pas les enlever, ces ingrédients toxiques du plastique?
Pas dans notre technologie, en fait. Fait que nous, on s'est vraiment concentré à développer une nouvelle technologie qui permet d'arrêter de produire de la matière à partir du pétrole, d'arrêter de relâcher des ingrédients toxiques dans notre environnement. Donc, notre matière est introduite dans la chaîne actuelle de valeur du plastique et le produit en fin de vie va être compostable. Et une fois qu'il se dégrade dans l'environnement, on n'a aucun ingrédient toxique qui va contaminer nos sols, nos nappes phréatiques, nos océans, la chaîne alimentaire, parce qu'il y a là le vrai problème du plastique. Mm-hmm. C'est tous les ingrédients toxiques qui se relâchent dans notre environnement.
Et il prend combien de temps à se dégrader, votre produit, à disparaître dans l'environnement?
La réponse courte, c'est ça dépend. La réponse plus longue, c'est au même titre que n'importe quelle matière organique. Une pomme entière dans du compost va prendre plus de temps à se dégrader qu'une fine tranche. Alors, c'est la même chose pour nos produits. Si on fabrique un film...
On apprend-tu ce matin qu'avant de les composter, il faut couper nos pommes? C'est ça qu'il faut faire?
Pas nécessairement, mais c'est vrai que un tas de compost, ça va rester quand même là un certain temps avant de tout se composter. Là. Donc, si on le fait à la maison, par exemple, dans la cour, ça prend plusieurs mois, ça prend tout l'été. C'est un cycle qui est long. Donc, les gens qui font du compost à plus petite échelle vont parfois justement découper certains fruits et légumes pour qu'effectivement ce soit composté plus rapidement. Mais c'est sûr que ça fait partie des réflexions. Puis je trouve ça juste, j'ai envie de faire une parenthèse là-dessus. On parlait de... démystifier le mot biodégradable oui. ou oxo-biodégradable. Oui. Parce oh, que ça, des fois...
Ça. Oxo-biodégradable, ça, c'est... Il va falloir l'expliquer.
ben, des fois, c'est parce qu'il y a des produits qui se vendent, qui sont en plastique, qui sont nommés, qui se définissent comme biodégradables ou oxo-biodégradables.
Et, 200 ans plus tard, genre?
Ben, c'est pas ça. C'est que, dans le fond, ça demeure la même problématique. C'est juste qu'on met des additifs dans, par exemple, le sac pour qu'il se dégrade plus rapidement. Mais une fois dégradé, ça va être quand même des petits bouts de plastique qui vont se retrouver dans l'environnement. Donc, c'est comme une fausse bonne solution. Ça vient contaminer aussi le recyclage. Donc, il faut faire attention, malheureusement, avec ça.
Et ça peut étouffer les tortues pareilles.
Oui, ben en fait, c'est que ça va faire des petits bouts. Donc là, ça va être plus au niveau des, tu sais, ce qu'on disait, les microbilles de plastique ouais. dans l'eau. Donc, ça va être plus à l'échelle, par exemple, du plancton ou du début de la chaîne alimentaire. Donc ça, c'est... Il faut faire attention des fois avec les termes qui sont utilisés à cause de ça, parce que biodégradable, on a l'impression que c'est comme... ça peut être une solution.
Exactement,
parfaite.
Parce qu'on s'imagine, nous, comme consommateurs, qui ne sommes pas des spécialistes comme vous, on se dit, c'est biodégradable, on fait un effort environnemental, OK, on va t'acheter si t'es biodégradable, parce qu'on va considérer que tu vas disparaître. C'est vraiment ça, on a l'impression que ça se dissout. Oui. Mais c'est pas ça, dans le fond.
C'est qu'on le voit ouais. plus, mais c'est
encore là. Mais je trouve ça intéressant
là.
Quand même, un plastique qui serait pas un plastique, ça, il y a quelque chose là. Bon, en même temps, je veux pas non plus avoir votre processus industriel, mais je suis quasiment obligée de vous croire sur parole, Laurence, quand vous me dites « je suis une meilleure alternative que le plastique ». Comment vous pourriez me donner d'autres arguments, mettons, oui. pour que je sois convaincue de votre bonne idée?
Bien, avant de répondre à cette question-là, je veux compléter juste sur, justement, la définition des termes. Il y a énormément de greenwashing qu'on appelle dans l'industrie. C'est pas rare, on voit des articles. Un produit supposément biodégradable a été tant de temps, des mois dans l'océan et c'est pas dégradé. C'est que dans l'industrie, pour être catégorisé comme un bioplastique, une matière doit soit être biosourcée, donc elle peut être faite à partir d'une autre matière que le pétrole, de source animale ou végétale. Mais ce plastique-là peut reproduire exactement la même molécule que le plastique et ne pas se dégrader.
Voilà. Okay?
Alors, c'est pas nécessairement une alternative, c'est pas nécessairement une solution. Pour être catégorisé comme bioplastique, donc on est soit biosourcé et ou biodégradable. Et pour être biodégradable, il n'y a pas d'horizon de temps qui est défini. Donc, il faut seulement que le plastique se dégrade. À quelque part,
mais
à un moment donné.
Amélie vient de le dire, ça,
c'est pas une vraie solution.
Non.
Du tout. La vraie solution, c'est le compostage. Parce que le compostage est défini par des normes, par des certifications. Et il faut qu'en dedans de 6 mois, le produit soit complètement dégradé dans des conditions reproduites du compostage industriel. Donc, à des températures, pH, humidité bien définies. Donc, lorsqu'on a un produit qui a une certification de compostabilité, on a vraiment, on commence à avoir des vraies solutions dans le marché.
Amélie, tu es d'accord avec ça?
Oui, et 3 petits points. Parce qu'en ce moment, hein, il y a beaucoup de villes qui implantent la collecte du bac brun. Mais après ça...
Le compost, donc.
Oui, donc le compost. Mais le compost, c'est pas nécessairement la technologie qu'on va retrouver partout dans toutes les municipalités. Certaines vont opter pour ce qu'on appelle la biométhanisation. Et à ce moment-là, comme c'est un procédé qui est plus rapide, il peut y avoir des enjeux parce que certifié compostable, ça veut pas dire certifié biométhanisable. C'est quand même deux éléments différents. Et puis, c'est ça, je vais être plate, en fait.
Biométhanisable, ça veut dire?
Qui pourrait aller à la biométhanisation, qui pourrait passer par un processus qui est un processus différent pour gérer les matières organiques. Okay. Il y a eu beaucoup de financement au niveau provincial pour encourager la biométhanisation parce que ça permet de faire davantage d'énergie aussi. Il y a nécessairement des enjeux autour de ça. Puis, moi, je fais ma tanante avec ça, mais il y a la question aussi de l'usage unique dans la réflexion. Ouais. Parce que la solution va quand même toujours être de réduire à la source.
C'est ça.
Il y a plusieurs alternatives qui se développent. Puis, je le comprends parce que le plastique, c'est ce qu'on voit beaucoup. Puis, ce qui s'est passé aussi au fil des années, c'est que ça s'est complexifié. Hein. Il y a une quantité incroyable de types de plastique, dont certains sont très peu recyclables. Moi, j'en ai beaucoup pris conscience là, quand je m'étais lancée le défi Juillet sans plastique il y a maintenant 5 ans.
Oh mon Dieu, oui.
Oui.
Ça avait été difficile, hein?
Tout un défi, j'ai pas réussi. Mais c'est correct, tu sais. Dans le fond, c'est de prendre conscience de l'omniprésence du plastique dans nos vies. Mais ça a été développé dans certains cas pour prolonger, par exemple, la préservation des aliments. Mais là, on se retrouve avec des espèces de, par exemple, les pochettes qui se tiennent elles-mêmes, là, qui ont comme aucun débouché.
Un sur-emballage.
Le beaucoup de sur-emballage. Mais il y a toujours...
Et je le disais tout à l'heure, vraiment, j'ai fait le test dernièrement, beaucoup d'affaires faites en Chine. Même dernièrement, je parlais... Mon chum a acheté les sacs réutilisables noirs et rouges qu'ils nous vendent chez IGA. Puis là, on nous dit, ben oui, temporairement, sont faites en Chine, éventuellement, seront faites au Québec. Pour l'instant, sont faites en Chine. Ben je vais attendre d'abord avant de t'acheter. Puis est-ce que c'est plus pratique aussi? Je suis pas sûre de ça. Combien faut les laver chaque fois? Peut-être que tu trouves que c'est une bonne idée, Amélie. Je sais pas, tu me diras, mais moi, je suis pas convaincue, tu comprends? Je pense que tous les gens sont un peu comme moi. C'est-à-dire, ils veulent, on veut vraiment au Québec. Si on l'a prouvé avec le recyclage, on est vraiment à 80%, on a recyclé. Aujourd'hui, on nous dit, ouais, finalement, il y en a peut-être que ça va dans le trou. Puis bon, Luc Ferrandez l'a dit, qu'il ne veut plus recycler parce qu'il trouve que ça ne sert à rien. Mais en même temps, on se dit, bon, on veut, mais il ne faut pas nous passer d'autres choses qui seraient l'équivalent de ce qu'on faisait avant, tu comprends?
Oui, puis on l'a vu avec le bannissement des sacs de plastique à Montréal. En mettant une limite d'épaisseur, hein, on a dit, c'est les sacs moins épais qui sont bannis. Ben maintenant, on se retrouve avec des sacs plus épais, donc qui prennent plus de matériaux à produire. Théoriquement, pour que leur empreinte soit moindre que les petits sacs légers, il faut qu'ils soient réutilisés 3 à 5 fois, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, ils ont un peu le même usage qu'ils avaient. Donc, il y a des dérives comme ça. De même que des sacs en papier, on peut avoir l'impression que c'est une meilleure solution, mais dans le fond, ça prend aussi beaucoup de matériaux à faire.
Ouais.
Fait que c'est vrai que...
Fait qu'on fait quoi?
Ben
on
c'est ça, mais ben, s'il y avait, comme je disais hier, j'en parlais avec l'autre Isabelle. Oui. Et s'il y avait une vraie solution...
Ben, je pense que c'est la réponse c'est à ça, c'est que c'est des solutions qui sont complémentaires. Nous, on peut pas, demain matin, remplacer les 350 millions de tonnes de plastique qui se produisent annuellement. Et il faut... Ça passe tout d'abord par un changement majeur.
350 millions, c'est où, ça?
C'est mondialement. Okay. À chaque année, 350 millions de tonnes de plastique qui se produisent. Mm-hmm. Et ça passe par, tout d'abord, un changement majeur de
puis
notre
nous,
comportement.
On a comme 10 % de ça avec nos 30 millions de
c'est les déchets.
30 000 tonnes de déchets. Oui, mais déchets, si on le produit éventuellement, ça va se jeter, là.
Ouais.
À moins qu'il y ait du monde qui collecte du plastique puis qu'il en fasse
mais
des petits tas dans leur
sous-sol. Il y a du plastique qui est utilisé pour une durée de vie qui est plus longue, là. Par exemple, un banc de parc, là, qui est fait en plastique, qui va avoir une durée de vie qui va durer pendant plusieurs années.
Ouais.
Il sera pas jeté dans l'année où il est produit.
C'est sûr.
Le problème, c'est qu'on l'utilise mal, le plastique, puis qu'il s'accumule dans notre environnement. Donc, il faut avoir des solutions pour réduire cette accumulation-là. Ça passe, par un changement de notre comportement, puis un changement de l'utilisation du plastique. Le recyclage, évidemment, est une solution à une partie de ce problème-là en réutilisant les plastiques qui ont déjà été produits. Mmh. Puis après ça, pour le reste, nous, on apporte une solution qui est complémentaire.
Et je vais revenir avec ma question. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Vous avez dit vous êtes biosourcée. Moi, je veux bien vous croire, Laurence Boudreau. Vous êtes très bonne, d'ailleurs. Une jeune écologiste aussi. Elle connaît bien ses affaires, mais... Je veux que vous me convainquiez et nos auditeurs que votre bioressource non plastifiée chimique, elle serait meilleure. En même temps, si on avait une alternative au Québec, on serait content.
Ouais.
Ça nous éviterait d'acheter d'ailleurs, de faire venir ça par bateau et de prier ensuite avec ça. Donc, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut encourager aussi
les initiatives locales.
Je pense que ça, vraiment, vraiment. Donc, on va s'arrêter ici, très courte pause. Je posais la question à mes auditeurs. Est-ce que vous avez l'intention? D'abord, êtes-vous conscientisé par toute cette surconsommation de plastique qu'on fait? Puis, je vous entends déjà. Vous allez me dire, oui, mais je veux bien. Et on nous met tellement d'emballages en plastique. T'achètes deux zucchinis, c'est emballé, suremballé, ça va direct dans ton bac bleu. Moi, des fois, ça me sidère de voir à quel point on me force à en consommer. Je veux pas, je veux résister, mais ça vient avec. Alors, vous me le direz, 514-790-9850. Et de l'extérieur de la grande région de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite. Avez-vous l'intention de diminuer votre utilisation de plastique? On est vraiment étouffé par le plastique. C'est bien qu'on s'en rende compte, remarquez, aujourd'hui. On a des auditeurs qui veulent intervenir. Éric, je commence avec vous. Merci d'appeler.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai un commerce, puis j'en suis là outré. Là, j'en ai mal au cœur du plastique.
Ouais.
Moi, mes sacs de magasin sont en carton. Il n'y a pas de logo, rien, parce que les gens les réutilisent pour faire d'autres cadeaux, des trucs comme ça. Mais chaque saison, Mme Maréchal, mon linge de magasin arrive dans des sacs de plastique avec des fonds en plastique entre ça en est là, à lever le cœur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai beau appeler les compagnies, ils veulent rien savoir. J'ai dit, mettez ça d'une boîte de carton, c'est du plastique. Écoute, vous seriez, c'est fou de recevoir du plastique autant. C'est deux fois par année, là. Imaginez un centre commercial.
Ah, c'est incroyable.
Comment on fait?
Oui, effectivement. Bonne question. Amélie, peut-être un début de réponse. Il y a quand même des choses qui se passent au niveau législatif.
Hein? Oui, c'est ça. Ben, en fait, il y a un travail ou une réflexion qui est entamée sur le fait de bannir le plastique à usage unique. On en parle au niveau canadien, on en a parlé au niveau provincial, puis au niveau de l'agglomération de Montréal aussi. Je pense aussi qu'à force qu'il y ait plusieurs commerçants comme vous, monsieur, qui appellent et qui demandent ça, ça fait évoluer les choses. Nous, on le voit, puis je pense un petit peu partout, là, les dossiers en environnement cheminent de plus en plus, puis une pression accrue auprès des fournisseurs peut avoir un impact à terme, puis permettre de changer les choses.
Nous, on le vit dans notre modèle d'affaires. Ouais. Oui, c'est que nous, en fait, nous, on a une matière qui se vend à des manufacturiers. Et au départ, quand on a commencé à vendre notre matière, les manufacturiers disaient « Ah, ton affaire, ça coûte plus cher que le polypropylène, vends-moi-le au même prix, je vais l'utiliser. » Et tout à coup, il s'est mis à avoir des demandes qui arrivaient de des commerçants comme vous qui veulent des solutions qui sont compostables. Donc, on a utilisé ces compagnies-là, ces entreprises-là pour retourner voir des manufacturiers puis leur dire « Vos clients veulent des produits compostables. » Alors, il faut continuer à faire pression parce que c'est une industrie qui doit s'ajuster à l'industrie du plastique.
Oui, mais en même temps, l'industrie du plastique, appelons-la polluante, là.
Ouais.
Celle-là aussi s'ajuste et devant toutes nos discussions et les tendances des consommateurs à en utiliser moins de ce type de plastique-là, le marché revoit ses prix à la baisse. Vous me disiez, Laurence, là, pendant la pause, que vous, c'est difficile parce que le prix du plastique polluant, il a beaucoup baissé. Donc, il devient encore plus intéressant pour des manufacturiers de faire affaire avec le même bon vieux plastique. Parce
exactement.
Que à la base, c'est le prix. Même le consommateur, c'est le prix qui va faire en sorte qu'on achète tel ou tel produit.
Bien, c'est ça. Ça revient. Le pouvoir est quand même entre les mains des consommateurs. Mm-hmm. Parce que les manufacturiers produisent avec le plastique conventionnel parce que, vous l'avez dit, c'est beaucoup moins cher.
Ouais.
Si nos consommateurs sont prêts à payer plus cher pour le produit qui a les mêmes propriétés, mais qui va être compostable en fin de vie ou qui va contenir une partie de plastique recyclé, les manufacturiers vont se mettre à l'utiliser, ces alternatives-là.
Jean-Marc, oui, à la minute, tu vas rajouter.
Il y a quand même des leviers législatifs, là. On parle de, par exemple, imposer l'intégration d'une partie de contenu recyclé dans la production. Ça, c'est une demande de l'industrie qui existe depuis un certain temps. Puis, je pense que oui, le citoyen, mais également au niveau politique, il y a des choses à faire.
Oui, mais ça, c'est clair. Après, est-ce qu'on a la volonté? Est-ce que ça bouge vite? On annonce des trucs en ce moment. C'est dans 2 ans, 3 ans. C'est long, là. On dirait que c'est long. Pendant ce temps-là, c'est parce que moi, je pense au rapport du GIEC, là, en 2018. Qui nous a dit, on a 12 ans. En 2030, il faut qu'on ait fait quelque chose pour la planète. Il faudrait qu'on bouge plus vite que ça. Là. On a Jean-Marc qui nous appelle. Bonjour, Jean-Marc.
Oui, bonjour, Isabelle. C'est un fait qui m'est arrivé en fin de semaine. Donc,
ouais.
Bonichois à Saint-Calix. J'ai acheté quelques articles. Puis là, la fille à la caisse est en train de passer les choses. Elle dit, voulez-vous un sac de plastique ou papier? Bon, je donne mon papier, je vais m'en servir pour le recyclage. Ben, je lui demande combien il coûte ton sac. Elle dit 14 sous. C'est ton sac de plastique. Elle dit 5 sous. Ben ouais, on ne sent pas de ton sac. On paye moins cher pour quelque chose qui pollue. Ça devrait être le contraire. Hein. Mettre le sac de plastique plus cher pour pas qu'on l'utilise.
Mais moi, je dis complètement, arrêtons d'en vendre. Si on dit qu'il pollue, pourquoi nous le charger, dans le fond? C'est enlève-le de la circulation si c'est mauvais. Il y a comme le fait de nous le vendre, là, ça le rend pas meilleur.
Puis le sac en plastique, il prend moins de matériaux à produire, donc il coûte moins cher aussi. Le sac en papier n'est pas exempt d'impact environnemental non plus. C'est juste que c'est pas les mêmes. Celui qu'on regarde beaucoup quand il est question de plastique, c'est son impact au niveau de l'abandon dans l'environnement, parce que là, c'est super nocif. Mais en termes d'utilisation des ressources, le sac en papier, on est encore dans l'usage unique. Mais c'est vrai que si on offre tout le temps des alternatives, ben là, on n'encourage pas les changements d'habitude non plus.
Effectivement. On a Richard avec nous. Bonjour, Richard.
Bonjour.
On vous écoute?
Moi, dans le fond, c'était pour le commentaire, c'était pour les plastiques qui recouvrent les bateaux dans les marinas.
Oui.
Ça aussi, c'est un beau plastique qui ne se réutilise pas là, parce que c'est chauffé sur le bateau.
Oui.
Ça aussi, il faudrait peut-être penser. Il y en a beaucoup en plus. Là.
Ça serait une bonne alternative.
On a des toiles qui vendent qui sont réutilisables plusieurs fois. Là. Ça serait mieux ça.
Oui, tout à fait. Mais c'est une façon de l'hiverniser aussi, hein, je pense. Est-ce que la toile aurait le même usage?
Quand on prend des grosses toiles bleues ou blanches, ça fait le même effet que le plastique qui sert.
Oui, tout à fait. Merci, Richard. Je reviens à vous, Laurence Boudreau, parce que je vous ai présenté comme directrice générale de Bosque Bioproduits, qui est une alternative québécoise écologique au plastique. Dit comme ça, on est charmé tout de suite. Mais je voulais quand même, vous dites, on est biosourcé, on est du bioplastique, donc on est meilleur que les autres. Ça veut dire quoi, biosourcé? Sans rentrer dans votre procédé industriel et vos secrets industriels, faut quand même qu'on sache un peu, ça veut dire quoi, biosourcé?
Biosourcé, c'est que c'est de nature végétale et ou animale. Dans notre cas, nous, la source de notre bioplastique, c'est des déchets industriels, comme, entre autres, les boues biologiques générées par les papetières, qui est aussi un problème en soi. Donc, nous, on utilise ce déchet industriel-là par un processus de fermentation. Donc, on prend les bactéries qui sont dans ces déchets-là et on les fait engraisser. On les explose et c'est ce qui est à l'intérieur de ces bactéries-là qui est notre produit miracle, si on veut dire. Le terme technique est du PHA. Et ça, ensuite, on va le mélanger avec des ingrédients qui sont tous de nature végétale pour obtenir une matière, des petites billes qui offrent exactement les mêmes propriétés que le plastique, mais qui, en fin de vie, vont se dégrader dans notre environnement.
Mm-hmm. Mais ces billes-là auront-elles pas le même impact dans l'environnement que les fameuses billes traditionnelles de plastique conventionnelles?
Non, du tout, parce que justement, leur provenance, au lieu de relâcher des ingrédients qui proviennent du pétrole, d'avoir des additifs qui sont toxiques à l'intérieur, qui vont aller contaminer nos ressources, nous, on relâche simplement des ingrédients qui sont naturels, donc qui retournent à l'environnement. On permet à nos ressources de se régénérer parce que ces ingrédients-là redeviennent disponibles et bénéfiques.
Sur les petites billes, là, je disais qu'il y en a de plus en plus dans les produits. Il y en a dans les savons, il y en a dans plein de choses comme ça.
Les microbilles.
Ça, c'est les microbilles.
Oui, les microbilles, c'est pas la même chose?
C'est comparable, mais les microbilles ont été interdites
au Canada.
Oui, c'est
ça. Les poissons, c'est tout fait avec ça, apparemment.
Oui, parce qu'ils étaient faits en plastique polluant. Ouais,
exact.
Ça s'en allait dans... Le gros problème de ça, c'est que ça s'en allait dans notre chaîne alimentaire. Ça se retrouvait dans nos systèmes d'eau. Les poissons les mangeaient. Puis nous, dans la chaîne alimentaire, ça remonte. Donc, on est en train de manger littéralement du plastique.
Et vous n'avez pas ce problème-là avec votre produit?
Non, parce que c'est totalement naturel. Du PHA, là, une des utilisations qu'on pourrait faire du PHA, c'est de l'utiliser comme nourriture pour poissons. Mais on s'entend, il faut les aimer, ces poissons, parce que le PHA, c'est un petit peu plus dispendieux. Mm-hmm. Mais c'est une bactérie qu'on fait
Combien de temps ça vous a pris pour... développer ce procédé?
Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. En fait, Paul Boudreau, c'est le fondateur de Bosque Bioproduits.
Qui se trouve être votre père aussi. Oui, c'est une entreprise familiale québécoise, c'est bon.
Ouais.
Sa fille est pas mal au courant, je trouve.
Ouais, merci. Mais ça fait un bon bout de temps que je tremble dans ce projet-là. Ouais, ouais. Mais lui, c'est v'là 10 ans qu'il a vu cette technologie-là qui a été développée par l'INRS à Québec, qui a vu le potentiel. Mmh. Il était très visionnaire de voir ça parce que v'là 10 ans, les bioplastiques, c'était pas le sujet d'actualité du tout. Qui a pris ça sous son aile et qui a développé cette technologie-là. On a investi énormément dans le développement pour rendre cette technologie-là rentable. C'est notre gros enjeu parce que...
Et là, vous voyez que vous attirez... En tout cas, ça a attiré mon attention. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais j'imagine que ça doit attirer l'attention aussi des manufacturiers. Ils n'ont pas le choix.
Le plus gros de l'attention qu'on attire en ce moment, c'est les compagnies, les propriétaires de marques, des compagnies cosmétiques, des compagnies qui font de la vaisselle réutilisable, qui veulent des options compostables et qui n'en trouvent pas sur le marché. Mm-hmm. Fait qu'on travaille, on développe ces produits-là en collaboration avec ces compagnies-là. Ensuite, on va vendre notre matière à leurs fournisseurs, qui est des manufacturiers.
Ben bravo. Merci beaucoup, Laurence Boudreau, directeure générale de Bosque Bioproduits, une compagnie québécoise qui fait du plastique plus écologique. Amélie, c'est ça qu'il faut encourager, je pense. Hein? Amélie Côté, qu'est-ce que t'en penses?
j'ai toujours des mises en garde,
oui,
évidemment.
Vas-y, alors vas-y, d'une mise en garde, c'est tout à fait ça, ben oui.
Parce que
on est
encore dans la réflexion, puis je pense que Laurence est d'accord de toute façon, des fois trouver comme il y a la meilleure solution, il y en a, ça dépend du, c'est très circonstanciel, parce que faut que ça puisse être composté réellement, hein. Donc si ce bioplastique-là se retrouve dans un bac de recyclage, ben à ce moment-là, il va être un contaminant dans la chaîne de tri. Donc le choix entre les différentes alternatives à usage unique, ben des fois c'est une question de préférence aussi ou d'impact qu'on veut essayer de réduire. Donc s'il y avait une vraie bonne solution qui est applicable partout, on l'aurait déjà, tu sais, je veux dire, ça serait déjà appliqué partout. Et ce sont des enjeux complexes, malheureusement, où c'est, ben moi je trouve ce qui est passionnant aussi autour de ça, mais la réflexion c'est beaucoup sur la réduction à la source, c'est et l'usage unique, donc ouais. Changer de paradigme sur l'usage unique.
Et je pense que c'est important d'avoir des conversations comme on vient d'avoir, puis ça conscientise les auditeurs, les auditrices, ça nous conscientise tous par rapport à notre relation avec tous ces matériaux qui nous entourent et aussi notre consommation aussi de toutes ces matières. La meilleure matière à recycler, c'est celle qu'on n'achète pas, hein?
Exact.
C'est toujours ce qu'on dit. Toujours. Merci beaucoup à toutes les deux. Ça a été très intéressant. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Je reçois en entrevue sans filtre Bob le chef. Restez là, tout le monde.